Je travaille en histoire culturelle de l'alimentation. En toute honnêteté, je ne suis pas sûr que l'histoire de l'alimentation en tant que telle existe, mais l'histoire de la culturelle de l'alimentation, je pense que là, on peut trouver réellement une manière de faire cette fameuse histoire. Donc je voudrais partir de cette définition pour comprendre après le contenu de mon intervention. C'est-à-dire que pour moi, l'alimentation n'a un intérêt qu'à partir du moment où on va jusqu'à la consommation et que cette consommation est replacée dans une culture, dans des pratiques, des usages qui permettent de bien comprendre la signification de cette consommation. Ce qui veut dire concrètement qu'une histoire de la production céréalière, une histoire de la production fromagère, une histoire de l'élevage, si on ne va pas jusqu'à la question du goût, si on ne va pas jusqu'au goût de la consommation par la population, si on ne se replace pas dans cette culture de l'alimentation, pour moi, ça ne rentre pas à proprement parler dans une histoire de l'alimentation. Quand bien même, évidemment, on a besoin de ces travaux-là pour après pouvoir faire une approche culturelle de l'alimentation. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment en rapport avec cette notion de culture de l'alimentation. Et pour corser un petit peu la difficulté, je vais surtout m'intéresser à l'alimentation paysanne pour les temps modernes, donc avec ce titre, un dossier à apprendre ou à reprendre. Et vous voyez qu'avec mon jeu, ma fausse interrogation, évidemment, derrière, j'essaie de vous montrer en quoi cette histoire de l'alimentation paysanne pour l'époque moderne n'existe pas et comment on pourrait éventuellement la faire. Et pour lancer mon intervention, je vais partir des rendez-vous de l'histoire, les paysans. Donc évidemment, thème à l'honneur, les paysans, et c'est très bien d'avoir ce thème, évidemment, pour les rendez-vous de l'histoire. Et je me suis amusé à regarder la totalité des interventions, des communications proposées, tables rondes, conférences, etc. Donc il y a 111 interventions proposées pour le thème les paysans. Et sur ces 111 interventions, il y en a deux qui abordent ouvertement les cultures de l'alimentation. 2 sur 111. Ça vous donne déjà une idée de la représentation de ces questions de l'alimentation dans les travaux des ruralistes, autour de la notion de culture de l'alimentation. Et si on s'intéresse cette fois à ces deux interventions qui vont aborder l'alimentation. La première s'appelle « De l'expropriation à l'accaparement des terres, histoire et cause des famines ». Et la seconde sera autour également de la famine. Le thème sera « Disette et famine ». Ce sont les deux qui sont proposés. Donc j'ai travaillé à partir des titres et des petits résumés, hein, évidemment. Évidemment que d'autres interventions aborderont quand même l'alimentation, mais ça me semble assez révélateur que lorsqu'on affiche ce thème sur la paysannerie, il n'y a que 2 communications sur 111 qui frontalement abordent l'alimentation, et elles venaient de l'aborder que par la disette et la famine. Là, vous verrez que c'est pas innocent. En réalité, c'est lié à une manière de faire de l'histoire qui est incompatible, en réalité, avec la manière de faire une histoire des cultures de l'alimentation, qui explique cette vision que j'ai qualifié de misérabiliste, et j'ai montré en quoi, pour moi, cette vision est misérabiliste. Alors, pour retrouver d'autres communications sur l'alimentation, on peut s'intéresser au sous-thème, ou au deuxième thème. Je suis enregistré, il faut que je fasse attention de ne pas parler de sous-thème, sinon mes collègues de Tours vont me taper sur les doigts. Donc, il y a un autre thème en parallèle pour les 10 ans de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, thème autour de la gastronomie, histoire de la gastronomie. Donc là, il y a 17 communications. Et sur les 17 communications, vous en avez ouvertement qu'une qui semble aborder la question de l'alimentation paysanne. Sur les produits de terroir sont-ils des produits paysans ? Ce qui n'est pas innocent là aussi, c'est une des grandes questions posées pour le 19e, 20e, mais c'est une question qui brouille le dossier en réalité pour l'époque moderne. Parce que, c'est un élément que j'essaierai de vous montrer, quand on n'aborde la question de l'alimentation paysanne, à un moment ou à un autre, il faut parler de cuisine paysanne. Mais on a toute une historiographie qui nous explique que cette cuisine est une cuisine dite traditionnelle, mais qui aurait été inventée au 19e, 20e. Donc ça brouille les grilles de questions que l'on peut avoir pour l'époque moderne. Donc dans un premier temps, je me suis mis dans la peau d'un étudiant de Master 1, Master 2, qui n'aurait aucune connaissance sur l'alimentation et qui aurait voulu rapidement savoir un peu quelles sont les connaissances que l'on peut avoir, grand public universitaire, autour de l'alimentation. Et donc je suis parti des synthèses concernant le monde rural et des synthèses concernant l'alimentation. Alors j'ai un peu triché parce que j'ai exclu la mienne, Et lorsque l'on prend ces synthèses, on a en gros une vulgate historiographique qui est marquée par une dérive misérabiliste, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Donc quand on lit ces différents passages, qui ne sont pas très développés dans ces synthèses, on s'aperçoit que l'alimentation des masses rurales sous l'Ancien Régime est marquée, est présentée comme étant marquée par une baisse de l'apport de viande et de matières grasses, baisse qui aurait été quantitativement compensée par l'augmentation de la part des céréales et par l'augmentation de la consommation des légumineuses. Et les céréales fourniraient, donc c'est le chiffre qu'on nous donne en principe, à l'organisme jusqu'à 80% des calories quotidiennes. La principale raison de cette dégradation, puisqu'elle s'est bien présentée comme une dégradation par rapport au régime alimentaire paysan du 14e, 15e, tient à l'accroissement démographique, en tout cas dans ces synthèses, tient à l'accroissement démographique du royaume auquel ne répondent pas de notables progrès agricoles. La vulgate historiographique insiste également sur la monotonie et la fadeur de cette alimentation, qui n'est jamais présentée comme une cuisine, mais comme une alimentation, sur le règne du bouilli, et sur l'omniprésence de la faim. Et pour vous donner une synthèse récente d'Alain Drouard, publiée en 2005, sur les Français et la table, du Moyen-Âge à nos jours, l'alimentation des paysans est abordée dans un chapitre, un seul, qui est consacré à la Renaissance, et l'auteur écrit, auteur qui est spécialiste de l'alimentation, mais il y a surtout les citadins ou les ruraux pauvres, qui n'avaient pas le choix de leur alimentation et dont l'ordinaire était monotone quand il n'y avait ni famine ni disette. Et là, on est vraiment au cœur de cette vulgate historiographique et cette alimentation est présentée comme fortement déséquilibrée et il suffit de regarder les travaux des années 60-70 pour trouver toutes les nombreuses carences avitaminoses de ces différents paysans. Et lire ces chapitres consacrés à l'alimentation paysanne des temps modernes revient donc à rencontrer systématiquement la faim qui est très très présente, qui va être brièvement éclipsée par de rares moments de bombance, de ripaille et de kermesse qui vont être très vite oubliés, si ce n'est évidemment dans les tableaux d'un Bruegel qu'on va ressortir de temps en temps, et probablement, mais là je vais faire l'histoire culturelle, dans l'imaginaire paysan. Soit une histoire de l'alimentation qui se résume bien souvent à la faim et l'abondance. La faim et l'abondance, c'est le titre d'une très bonne synthèse de Massimo Montanari sur l'alimentation à l'époque moderne et à l'époque sur l'ensemble de la période historique pour l'Occident. Et la faim et l'abondance renvoient bien aux deux éléments que nous connaissons bien grâce à nos sources. Et en réalité, ce que nous connaissons très très mal, c'est ce qu'il y a entre la faim et l'abondance, c'est-à-dire la normalité. L'alimentation quotidienne, celle qui n'est pas l'alimentation des disettes, celle qui n'est pas l'alimentation des ripailles ou des jours de fête. Et là, effectivement, on a un vrai problème pour avoir des sources et pour pouvoir retrouver cette alimentation. Alors, autre élément qui pose problème dans cette vulgate historiographique, c'est que vous avez très fréquemment un amalgame qui est réalisé entre la faim physiologique, qui est une faim qui est ponctuelle, fort heureusement pour cette paysannerie, et une culture de la faim qui, elle, est un état permanent. Et souvent, on a un amalgame entre cette faim physiologique et cette culture de la faim qui va entraîner une dérive misérabiliste où on présente la paysannerie française qui passe son temps à mourir de faim, en gros, jusqu'au 18e. Et on le voit très bien, par exemple, dans une vie quotidienne, celle de Jean-Nicolas et René-Nicolas, la vie quotidienne en Savoie au 17e et 18e siècle, où on nous présente au départ ce qui est réellement la culture de la faim. On vivait tête levée à scruter le ciel dans la crainte permanente du trop de pluie, du trop sec, des neiges précoces, des gels tardifs, des grêles d'été, dont dépendait la nourriture de l'année, survivre, faire durer jusqu'à la moisson suivante. Pour le plus grand nombre, manger à sa faim restait une grâce constamment menacée par les disettes en grains. Donc là, on a une parfaite présentation de ce qu'on entend par culture de la faim, c'est-à-dire ce cadre mental, ce cadre de vie qui marque des générations et des générations de paysans qui connaissent le prix humain d'une disette. Et donc, la culture de la faim, c'est tout l'outillage mental et les techniques qui vont permettre de vivre avec le risque de la pénurie, avec la crainte de la disette et, ponctuellement, avec le problème de la famine. Cette culture de la faim, on va la voir réapparaître en Occident, par exemple, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ou de nouveaux pénuries, de nouveaux, de nouvelles manières de concevoir l'approvisionnement, les réserves, etc. Donc là, on est sur une présentation de la culture de la faim. Alors l'idée avait été présentée déjà chez Mandrou. Hein. Alors, si je vous cite Mandrou, c'est pas innocent, parce que là, on est sur un ouvrage qui est important pour l'historiographie, puisqu'il annonce l'histoire des mentalités. Hein. Les éléments qui, pour Mandrou, renvoient à un trait essentiel de la civilisation moderne, il y a bien cette culture de la faim, cette peur de la faim. Alors, il n'utilise pas le terme de culture de la faim, il ne conceptualise pas encore, et moi, j'ai essayé de conceptualiser cette culture de la faim dans un article que j'ai publié en 2009, où, dans la continuité, hein, évidemment, des idées de Mandrou et de Massimo Montanari, j'ai essayé de montrer comment on pouvait créer ce concept qui est un concept, à mon sens, clé pour comprendre une culture alimentaire et comprendre comment fonctionne une société par rapport à l'alimentation. Et après, on peut comprendre les choix productifs, par exemple. On les replace dans cette culture de la faim. Et en replaçant ces choix productifs dans une culture de la faim, là, je fais une histoire de l'alimentation, puisque je m'approche de ce cadre essentiel pour comprendre le rapport à l'alimentation. Donc, si je reviens à ma vie quotidienne en Savoie, au départ, nous avons bien une présentation de la culture de la faim. Mais quand on continue un petit peu la lecture, là, on glisse vers cette dérive misérabiliste. Face à ce monde de crève la faim, prêt à mâcher n'importe quoi, les herbes des prés, les fruits verts aux arbres, la consommation des familles à leur aise donne l'image d'une surabondance goulue. Et là, vous voyez, on a glissé du côté d'une vision totalement misérabiliste, puisque les paysans sont devenus un monde de crève la faim, et on présente cela comme étant un comportement normal, et mâcher n'importe quoi, les herbes des prés, les fruits verts aux arbres, les herbes des prés, en réalité, il y a là encore un amalgame entre les cas avérés de consommation d'herbes sauvages au moment des famines et ce qu'on appelle des herbes dans le français 16e, 17e, à savoir des légumes feuilles. Quand vous prenez des traités de cuisine aristocratique, on présente des salades d'herbes. Et jamais on a été écrire que les aristocrates consommaient des herbes sauvages. On l'écrit pour les paysans. Alors qu'en réalité, derrière herbes, il faut bien comprendre les racines, les feuilles, les légumes racines. Donc là, on a cette dérive, et cette dérive, on la voit également par cette comparaison entre deux extrêmes. Souvent, on compare les cas avérés de famine, donc on a effectivement la situation la plus dure pour cette population, et on va la comparer à un autre extrême, à savoir les festins des élites. Mais même pour les élites, on connaît très mal l'alimentation ordinaire, et que si on s'intéresse à l'alimentation ordinaire des élites et à l'alimentation ordinaire de la paysannerie, en réalité, le contraste n'est pas si flagrant que ça. Quand vous avez des lettres de Mme Sévigné où elle explique qu'au Rocher, elle consomme des châtaignes ou qu'elle consomme de la bouillie avec du beurre, on se rapproche quand même d'autres habitudes alimentaires. Donc, cette dérive, on la voit très bien dans l'histoire de la France rurale, 75, et je me suis amusé à regarder les occurrences de la faim dans l'histoire de la France rurale. Alors j'ai pris le volume qui vous intéresse en tant que moderniste, hein, donc le tome 2, Hugues Neveu, Jean Jacquard, Emmanuel Leroy Ladurie, et je me suis intéressé au passage concernant l'alimentation et la culture matérielle, en sachant que dans le chapitre de Jean Jacquard, la culture matérielle est quasiment évacuée, hein, il y a pas grand-chose, il faut plutôt aller chez Hugues Neveu ou Emmanuel Leroy Ladurie pour avoir des renseignements un peu plus développés autour de la culture matérielle. Donc vous voyez qu'on retrouve famine, disette, faim, crise de subsistance, sous-alimentation, malnutrition, mortalité exceptionnelle. Ça, on l'a. Par contre, rassasié, repu, satiété, ventre plein, ça n'apparaît jamais. Ce qui est bien une façon d'orienter aussi le regard. Alors derrière, évidemment, c'est aussi une conséquence de nos sources. Nos sources parlent évidemment des difficultés, évidemment les famines, évidemment le grand hiver 709, on l'a dans tous les livres de raison. Donc l'historien les trouve, mais le moment ordinaire où on a mangé à sa faim, on ne l'a pas dans nos archives. On ne l'a pas dans nos archives et pourtant la quotidienneté elle est là. L'ordinaire de cette culture alimentaire se trouve ici. Donc cette dérive, on la voit, et on la voit également, notamment dans les traités, dans les chapitres de Jean Jacquard et Emmanuel Leroy Ladurie, par l'utilisation de famine et disette, parfois comme synonymes. Or, évidemment, la réalité n'est pas la même entre la disette et la famine, et vous voyez que celui qui est le plus nuancé, en réalité, c'est Hugues Neveu. Hugues Neveu utilise disette, mais surtout sous-alimentation, malnutrition. Alors, la différence s'explique simplement par le fait que Hugues Neveu, dans les années 70, travaille sur l'alimentation. Il a publié notamment un bel article en 73 hein, sur l'histoire de l'alimentation où il remet en question la manière d'obtenir un certain nombre de résultats chiffrés hein, par l'histoire sérielle, quantitative. Donc c'est une préoccupation de chercheur chez Hugues Neveu et on le voit dans sa partie. Alors que pour Jean Jacquard et Emmanuel Leroy Ladurie, on est sur une vision qui est plus sombre en réalité de l'alimentation. Et dans l'histoire donc de la France rurale, les paysans n'accèdent réellement à la nourriture qu'à partir de 1720 en réalité. Je caricature à peine. C'est à partir de 1720 que la situation semble s'améliorer. Par exemple, dans le chapitre d'Emmanuel Leroy Ladurie, en Auvergne comme ailleurs, quoique qu'un peu moins d'ailleurs sans doute, un vaste prolétariat ou semi-prolétariat campagnard se gonfle au XVIIIe au lieu de mourir de faim et d'infection comme il le faisait couramment au XVIIe siècle. Et dans la conclusion générale du volume, il revient sur l'idée, hein, les peuples désormais, nous sommes après la césure de 1720, cessent de mourir de faim. Et si vous prenez une histoire plus récente comme l'histoire du corps, vous avez un très beau chapitre sur cette corps du commun, usage commun du corps. On revient sur cette césure. On meurt de faim en France sous l'Ancien Régime, tout en reconnaissant, je cite, que les grandes crises de subsistance tendent à s'atténuer au-delà du règne de Louis XIV. Et nous retrouvons là la fameuse césure de 1720 qui est bien présente dans l'histoire de la France rurale. Et si je reprends le chapitre d'Hugues Neveu, Hugues Neveu, c'est le seul donc qui est nuancé autour de l'alimentation, et il a même l'audace intellectuelle, hein, on est en 75, d'évoquer la possibilité d'un choix des cultures en fonction du goût. C'est une toute petite phrase, mais elle est importante parce qu'on est en 75 et on commence à travailler cette question en alimentation. Je pense à Aron, par exemple, avec Le Mangeur à Paris. Hugues Neveu écrit, dans l'ensemble, alors c'est le sarrasin, c'est pour vous, hein, réponse à la pomme, dans l'ensemble, il, le sarrasin, demeure assez peu cultivé parce que peu connu encore, virgule, ou peu apprécié. Trois mots, peu apprécié ou peu apprécié, mais trois mots importants, car derrière, il y a la question du choix possible. Et on retrouve une des grandes problématiques de l'histoire de l'alimentation qui est le goût et la nécessité. Le goût et la nécessité, les goûts, les dégoûts, les tabous, et les goûts et les nécessités, cette question, lorsqu'elle est posée, on bascule réellement dans une histoire de l'alimentation. Et avec Hugues Neveu, hein, vous avez d'autres historiens qui ont été bien plus nuancés sur l'histoire, sur cette approche de l'alimentation. Par exemple, Guy Cabourdin, hein, dans La vie quotidienne en Lorraine. Là aussi, on a une vision qui est bien plus nuancée, où il évoque, donc, on a probablement donné à l'alimentation populaire un caractère excessif de ses réalisations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre bien les parts d'ombre du dossier et il évoque le ressenti de l'historien, mais le sentiment domine. Mais le sentiment domine. Et c'est là où on a un problème sur la manière de faire de l'histoire du monde rural, qui est une approche qui est marquée par l'histoire économique et sociale, par l'approche quantitative, sérielle, et l'histoire de l'alimentation, qui ne peut pas, pour l'époque moderne, être totalement réglé par une approche quantitative, puisqu'il y a des parts invisibles qui posent problème. La question, c'est est-ce que le sentiment domine est un argument scientifique ou pas pour retravailler le dossier. Alors, vous avez d'autres historiens qui remettent totalement en question cette vision. Et là, évidemment, Marcel Lachivert, dans un très très bon livre, Les années de misère, hein, qui là s'intéresse à une période très très difficile du royaume de France, hein, à la fin du règne donc de Louis XIV. Et en ouverture de cette histoire, il écrit « Les Français de la fin du XVIIe siècle ne sont pas des crèves-la-faim. La France de cette époque n'est pas le tiers-monde. C'est un pays qui, dans des conditions normales, nourrit sa population, même si cette nourriture ne nous satisfait plus aujourd'hui. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il refuse un élément qui avait été à la mode de faire un parallèle entre le tiers-monde et la situation de l'Europe à l'époque moderne. Or, ce sont des comparaisons ahistoriques, hein, qui ne tiennent pas en réalité, parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas sur le même fonctionnement de société. Hein, et donc, ce sont des comparaisons un peu faciles. Et Marcel Lachivert met les pieds dans le plat tout de suite, parce que on ne l'attendait pas là, évidemment, en ouverture d'un livre sur les famines. Et je pense également que ce livre-là est une réponse à une dérive des travaux de Pierre Goubert, mais qui ne sont pas liés à la volonté de Pierre Goubert, mais à la lecture qui a été faite des travaux de Pierre Goubert. Et on le voit avec l'utilisation de crève-la-faim. Crève-la-faim qui a été utilisé plusieurs fois par Pierre Goubert dans ses travaux. Et je pense qu'il y a un jeu entre le travail de Marcel Lachiver et les travaux de Pierre Goubert autour de la situation sanitaire et alimentaire de la paysannerie. En effet, on peut dire que nous avons trop bien appris la leçon du remarquable Louis XIV et 20 millions de Français, 66. Remarquable, pour moi, c'est vraiment un, et je suis pas le seul à le penser, c'est un livre essentiel de l'historiographie, évidemment, qui montre bien, et fait le faire en 66, que le grand siècle a un envers, que la famine peut encore frapper. Alors on sait qu'il y en a en 61-62, en 93-94, 1709-1710. Et ce recadrage, qui est un recadrage historiographique, en réalité, va être poussé par différents éléments qui vont en faire une situation normale pour l'ensemble de la paysannerie, pour l'ensemble de l'époque moderne. Alors il y a derrière le politiquement correct, il faut évoquer la difficulté de la vie quotidienne de la paysannerie. Il y a également la rigueur scientifique d'un quantitatif qui, malheureusement, n'a pas prise sur l'alimentation, et c'est là qu'il y a un vrai problème. Le problème de nos sources qui sont très lacunaires sur la question et d'une simplification inhérente à la vulgarisation. C'est-à-dire que dès que l'on fait une synthèse, dès que l'on fait un cours, obligatoirement, on doit vulgariser et on simplifie. Et en simplifiant, parfois, on noircit le trait. Mais en réalité, à l'origine de cette dérive historiographique, on a réellement un recadrage salutaire et que l'on doit repasser dans un combat pour l'histoire, mais un rôle subalterne de facteur explicatif. En gros, nos actuelles connaissances sur l'alimentation paysanne des temps modernes sont largement issues d'une lecture marxisante de la société rurale qui insiste sur l'aliénation, qui insiste sur l'acculturation des masses rurales, et qui était aussi, et donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est vraiment essentiel pour nous, un double combat pour l'histoire, contre une vision de l'ancien régime à la Gatsotte, montrer que les paysans aussi ont droit à leur histoire, et ça, on le doit en grande partie à ces grands ruralistes que je viens d'évoquer. En préface de la publication de la thèse d'Alain Croix, Pierre Goubert a cette très belle formule, « rompre le silence méprisant ». Rompre le silence méprisant, montrer que les paysans ont droit à leur histoire. Et donc, c'était également une façon de lutter contre une approche anecdotique ou pittoresque de la vie quotidienne. Et là, quand on fait l'histoire de l'alimentation, on souffre beaucoup parce que il y a tout un héritage historiographique ou pseudo donc historique sur la petite histoire, des recettes, etc., qui pose problème pour arriver à comprendre vraiment le fonctionnement de cette société. Donc, autre élément, ce combat pour l'histoire était aussi une volonté de multiplier des garde-fous contre des généralisations abusives de dossiers qui étaient bien documentés sur le 19e et que l'on allait généraliser à l'époque moderne parce que proximité des siècles, etc. Alors, vous avez le très bel exemple, évidemment, du port familial sous l'Ancien Régime qui est bien remise en question dès les années 60. On montre bien que derrière, il est faux de dire que toutes les familles paysannes du pays avaient un port que l'on tuait en hiver. Et donc tout ça renvoyait vraiment à une volonté de travailler autrement le monde rural. Mais en noircissant un tableau qui est sombre, il y a eu cette dérive misérabiliste. Alors cette dérive misérabiliste, elle est également liée à la volonté de faire systématiquement une histoire quantitative, une histoire sérielle. Donc il faut s'inscrire dans la grande école des annales, puisque cette histoire de l'alimentation, dans un premier temps, va s'inscrire dans l'histoire économique, dans la démographie historique, évidemment, et dans l'histoire de la culture matérielle, qui sont les trois grands axes fondamentaux de l'école des annales. Et il faut bien noter la révolution épistémologique que l'historiographie française a pu avoir grâce à l'école des annales. Et l'approche de l'histoire économique va poser la question de l'alimentation en termes de rapport existant entre une population et une production alimentaire. Et elle a ainsi fortement souligné le fragile équilibre de ce régime alimentaire, hein, qui est une certitude, hein, qui a bien été documenté. Or, je pense évidemment aux travaux de Jean Meuvres sur les crises de subsistance. Hein. Là, quand moi je vous parle de culture de la faim, c'est totalement dans la continuité des travaux de Jean Meuvres, évidemment, hein, qui permet de solidifier. De toute façon, quand on fait de l'histoire culturelle, on est dans le grenier, on a besoin des étages qui sont en dessous. Hein. On a besoin de l'économique et de social pour que l'histoire culturelle fonctionne. Sinon, on travaille sur du sable. Donc, cet élément a été bien souligné, mais l'alimentation ainsi n'a été utilisée ou étudiée que comme un facteur explicatif des crises de subsistance. C'est-à-dire qu'en gros, comment comprendre les clochers de mortalité ? On passe par le relevé des prix, les mercuriales, etc. Et on arrive à montrer qu'il y a un effet parfois mécanique entre l'augmentation du prix des céréales et cette augmentation de la mortalité. Mais là encore, vous voyez qu'on va dans le sens d'une approche très misérabiliste, puisque l'alimentation n'est évoquée que pour expliquer une crise, et non pas pour expliquer le reste de la vie quotidienne. Au cours de la décennie 1960, cette approche va être complétée par une analyse nutritionniste qui est fortement influencée par les préoccupations de la diététique d'après-guerre et du discours tiers-mondiste. On va retrouver ces idées-là chez les historiens, ce qui fait partie là aussi de l'objectif de l'école des annales qui œuvrait pour des approches transdisciplinaires. Donc, utilisation de ces travaux, et à partir des principales denrées consommées, en gros le blé, le vin, la viande, les historiens ont alors tenté de mesurer des rations, d'essayer de repérer des carences, des bilans caloriques. Le problème, c'est qu'on ne peut le faire qu'à partir de documents chiffrés, évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du marché. Or, on part du principe, dans ce cas-là, que l'alimentation paysanne ne pourrait être comprise que par le marché et que par nos sources, ce qui est faux, puisque les trois autres circuits d'approvisionnement alimentaire échappent en grande partie à nos sources. L'autoconsommation, et donc c'est là où on peut replacer mon histoire du jardin potager, où je m'intéresse évidemment à ce thème-là de l'autoconsommation. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'avitaminoses qui, en réalité, ne tiennent pas si on prend en compte la culture de légumes et d'arbres fruitiers dans les jardins. Mais là, on n'a pas beaucoup de sources, on n'a pas de très belles séries pour travailler l'autoconsommation. Vous avez la culture du don, d'aliments qui est aussi très présente, alors qu'on repère plutôt par les sources littéraires, évidemment, prenez les contes du 17e, on offre beaucoup, mais on a parfois dans nos archives preuve de cette pratique. Je pense par exemple à un livre de raison qui a été tenu par un maître d'école du Mulcien pour la fin de l'Ancien Régime et début de la Révolution française, et ses élèves lui offrent des fruits. On est sur cette culture du don qui échappe en grande partie à nos sources. Et enfin, l'illicite, on braconne, hein. Et ça on le sait par les archives judiciaires, on le sait par les ordonnances de police, évidemment, on pêche, et tout ça c'est consommé également, mais évidemment on est incapable de chiffrer cet apport-là. Ce qui veut dire que d'un côté, on a une histoire qui veut à tout prix faire du quantitatif et du sériel, et donc qui arrive sur des résultats qui sont faux parce que on a une part d'ombre importante, et de l'autre côté, on a cette part d'ombre qu'on ne sait pas mesurer et qui, pour nous, pourtant, permet d'avoir une vision beaucoup plus nuancée de l'alimentation paysanne. Alors, autre élément qui a posé problème sur cette approche de l'alimentation, souvent les travaux des historiens ont été victimes de préjugés. Préjugés de l'époque moderne et préjugés de l'époque contemporaine, c'est-à-dire, et ça joue évidemment sur les résultats. Maintenant, il faut être honnête, hein, nous sommes aussi victimes de nos préjugés, et dans 20 ans, on pourra dire que on s'était trompé sur un certain nombre d'analyses. Alors, premier préjugé de l'époque moderne, la hiérarchie du pain noir au pain blanc. Évidemment, la hiérarchie de la puissance sociale, c'est le pain blanc. La puissance sociale dans ce royaume se marque par la consommation du pain blanc. C'est aussi une hiérarchie qui est hautement culturelle. C'est une hiérarchie qui est hautement économique, mais elle n'est aucunement nutritionnelle. Un pain complet est meilleur qu'un pain blanc d'un point de vue purement nutritionnel. Or, quand on travaille le monde paysan, on va nous dire, oui, les pauvres, ils n'ont pas de pain blanc, ils mangent du pain complet, du pain noir, etc. D'un point de vue purement nutritionnel, mais par contre, qui peut être frustrant pour eux, puisqu'ils n'ont pas accès au pain de l'élite ou au pain de la richesse. Mais vous voyez comment il faut jouer sur les préjugés, les grilles de lecture à la fois culturelles, mais également nutritionnelles. De même, l'image négative de la bouillie. Quand on prend les mémoires qui ont été faits par des médecins éclairés à la fin de l'Ancien Régime, hein, qui présentent les habitudes alimentaires de certaines localités, hein, qui sont conservées à l'Académie de médecine encore aujourd'hui, on voit très bien que dès qu'ils évoquent la bouillie, ils sont très négatifs. La bouillie, c'est un archaïsme, ça renvoie à la misère, etc. Mais derrière, il n'y a pas de raison diététique objective. On est totalement dans un préjugé occidental qui va lier la civilisation, l'urbanité au pain blanc bien levé et la bouillie à l'archaïsme du monde rural. Mais une bouillie de céréales avec du beurre, tel qu'on la consomme, c'est plus nourrissant, en fin de compte, que du pain blanc. Et le rapport n'est pas le même si on réfléchit en termes nutritionnels. Exemple, pour illustrer ce propos et de bien montrer cette approche culturelle et comment on peut jouer avec, vous avez un très bel exemple qui est donné par Chavat dans son livre de raison. Alors je triche parce que là on est en ville, mais je vais revenir sur le monde rural. Donc vous avez un homme sauvage qui est exhibé, une sorte de monstre de foire, et la population lilloise vient... paye pour voir cet homme sauvage, et évidemment cet homme est nu puisqu'il est sauvage, et on lui jette de la viande crue. Évidemment, il est sauvage. Et vous avez une dame de la bonne société lilloise qui suppute qu'il doit y avoir une supercherie derrière, que cet homme sauvage n'est peut-être pas si sauvage que ça, et elle a une idée, elle lui donne du pain blanc. Et que fait cet homme sauvage? Il prend le pain blanc et il le mange avec gourmandise. Donc il n'est pas sauvage, puisqu'il a apprécié le pain blanc. Vous voyez comment, et là on est sur une grille culturelle, mais qui permet de se replacer dans cette culture de l'alimentation. Alors, autre élément donc sur les préjugés, préjugés également des élites de l'Ancien Régime sur toute l'économie de cueillette qui existe encore à l'époque moderne et qu'on n'arrive pas à chiffrer, évidemment, mais qui existe. Et donc c'est là que je peux vous donner cet exemple qui est cité par Paul Delsalle dans Boire et manger en Franche-Comté, où là, il nous évoque donc des paysans qui vont au printemps rechercher des herbes, mais là, on est sur des herbes dans les champs, pour les consommer. Et évidemment, c'est un apport en vitamines à la fin de l'hiver. Pensez aux herbes de soupe sauvage, par exemple, qui reviennent à la mode actuellement, on sait qu'il y a un apport en vitamines qui peuvent être obtenus, mais là, on a un témoignage qui est totalement isolé. La difficulté, c'est là encore comment intégrer cette consommation dans la culture alimentaire paysanne, en sachant que pour les élites du 17e, 18e, c'est la preuve de la sauvagerie de la paysannerie que d'aller cueillir, alors que les mêmes plantes cultivées dans le jardin sont consommées par les élites. Hein. Mais on passe par le jardin, donc la contamination joue, hein. Il y a une contamination positive du jardin, évidemment. Donc, ces préjugés contemporains, donc les préjugés du 17-18e, ont été confortés par les privations qu'ont vécu les historiens pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont travaillé sur l'alimentation paysanne dans les années 50-60. C'est-à-dire que ces historiens, lorsqu'ils travaillent sur l'alimentation paysanne, ils sont marqués par leur vécu obligatoirement, hein, comme nous sommes marqués par notre vécu, et ils vont transformer les rations journalières de pain blanc et de viande en maîtres étalons de la bonne alimentation. Parce qu'on est dans le discours des années 50-60, en réalité. Or, aujourd'hui, si vous reprenez le discours diététique occidental, on nous dit peu de viande et on parle surtout de l'importance de la consommation de fruits, de légumes, de fibres, etc. C'est-à-dire que si on se replace avec le savoir diététique actuel, on a une vision autre, obligatoirement, qui est influencée par ces connaissances. Donc... du côté du monde des ruralistes, hein, des historiens donc spécialistes du monde rural, pas d'études vraiment sur l'alimentation de la paysannerie ou sur la culture alimentaire paysanne. Alors si on s'intéresse aux travaux cette fois des spécialistes de l'histoire de l'alimentation, qui à partir des années 70 commencent à s'intéresser vraiment à l'alimentation, alors là, on est sur le silence méprisant de Goubert, c'est-à-dire on ne parle pas de paysannerie. On est sur l'alimentation des élites. C'est-à-dire que chez les ruralistes, on a des informations qu'on peut retravailler aujourd'hui, qui sont solides. Du côté des spécialistes de l'alimentation, en réalité, on s'intéresse à une alimentation qui concerne uniquement la bourgeoisie, l'aristocratie, les livres de cuisine, etc. Et on ne donne pas sa place à l'alimentation. C'est-à-dire que l'histoire des mentalités, qui pourtant aurait pu permettre de travailler une culture de l'alimentation, elle ne va pas rendre possible cette étude pour deux raisons. C'est qu'on s'aperçoit que les historiens ruralistes, en principe, vont pas suivre l'histoire des mentalités, ils vont rester sur une approche plus classique, plus économique et sociale. Et les historiens qui vont glisser vers l'anthropologie historique et l'histoire des mentalités vont pas s'intéresser à la paysannerie. Et donc, on va avoir un angle mort autour de cette culture de l'alimentation. D'où la question pour ma troisième partie. Est-ce que les masses paysannes d'hier ont droit à avoir du goût? Et est-ce qu'elles ont droit à avoir une cuisine? Alors, évidemment, ce sont des fausses questions pour moi, mais on peut se poser ces questions. C'est-à-dire que lorsqu'on lit des travaux sur l'alimentation paysanne, il est très rare qu'on évoque le goût des paysans. Un petit peu comme l'histoire du paysage. Pendant très longtemps, on nous a expliqué que seules les élites voyaient le paysage. Et là, il y avait une confusion entre les sources dont nous disposons, où on parle beaucoup, évidemment, les élites nous ont laissé des traces et elles évoquent le paysage, elles évoquent leur alimentation. Mais est-ce qu'on peut avoir l'équivalent pour la paysannerie? Donc ce sera mon dernier point. Alors, évidemment, mon objectif n'est absolument pas de sombrer dans un mythe de l'âge d'or, de dire que la paysannerie vit très très bien sous l'Ancien Régime. Je suis pas là pour vous dresser le portrait des paysans du hameau de la Reine à Versailles. C'est pas du tout ce que je voudrais montrer. Je veux absolument pas nier la dégradation du régime alimentaire populaire. Je veux pas nier non plus les morts de faim et de misère, évidemment. Mais il me semble qu'on doit reconsidérer la monotonie du régime alimentaire paysan et qu'on doit essayer de retrouver cette culture alimentaire et qu'on a des moyens de reconsidérer cette culture alimentaire en soulignant que nos sources manuscrites, et ne pas être victime de nos sources, que nos sources manuscrites renforcent l'aspect céréalier et monotone de l'alimentation paysanne parce que nos sources sous-estiment grandement la production familiale de menus denrées, parce que nos sources ignorent grandement tout ce qui est produit de la cueillette, parce que nos sources ne nous permettent pas d'avoir une idée très précise du braconnage. Et ce qui donne du goût à cette cuisine, ce sont les herbes du jardin, ce sont les légumes et ce sont les fruits, qui sont justement les aliments sur lesquels on a le moins de prise dans nos archives. Et donc monotone, non, si on arrive à récupérer les légumes, les fruits et les herbes. De même, il faut se méfier du vocabulaire. J'avais commencé à en parler, mais ça me semble vraiment important. Lorsque vous lisez des chapitres concernant l'alimentation, la vie quotidienne des paysans français étant moderne, on nous explique que la soupe paysanne est faite à partir de racines et d'herbes. Et il y a très peu d'historiens qui prennent la précaution au moins des guillemets avec racines ou herbes, ou qui au moins, la première fois qu'ils utilisent racines et herbes, vont mettre après légumes racines, légumes herbes. Ce qui change totalement la lecture que l'on peut en avoir. On peut aussi écrire que la soupe paysanne est fabriquée à partir de navets, de panais, de raves, de choux, de ciboules, de thym, etc. Je viens simplement de traduire ce qu'on entend par herbes et racines. Mais vous remarquez que dans les deux cas, l'idée que je fais passer n'est absolument pas la même, évidemment, sur cette consommation. Même chose pour gland. Lorsque gland est utilisé à l'époque moderne, ça peut encore comprendre les noix, les noisettes, les fennes, les châtaignes. Donc on peut avoir une approche plus large. Or, l'imaginaire évoqué pour un lecteur du XXIe siècle n'est pas le même d'une phrase à une autre. Lorsqu'on dit que les paysans consomment des herbes et des racines, en une phrase choc, on montre quoi ? L'animalité de la paysannerie. Et ça peut paraître très rassurant, puisque si vous prenez par exemple les élites du XVIIe, les élites du XVIIe parlent également de l'animalité de la paysannerie. Prenez Madame Sévigné, elle parle des sauvages. Prenez La Bruyère parle des animaux farouches. Que des animaux farouches mangent des herbes et des racines, cohérent. Et non, c'est un leurre en réalité, c'est un télescopage entre deux réalités. La réalité du XVIIe siècle, lorsque au XVIIe, on dit que les paysans sont des animaux, en réalité, on ne renvoie pas aux légumes ou aux herbes aux racines, on renvoie à leur manière de taper qui ne sont pas celles de la civilité classique. Mais on ne renvoie pas aux herbes et aux légumes. Alors que nous, nous associons herbes, légumes à l'animalité. Donc il y a un contresens qui nourrit totalement cette dérive misérabiliste. Alors, après avoir déjoué les pièges du vocabulaire, peut-on pour autant parler de cuisine paysanne? Est-ce que ça a un sens de parler de cuisine paysanne pour l'époque moderne? Si on arrive à démontrer qu'il existe une cuisine, on est bien au cœur d'une culture alimentaire. Alors, le problème, c'est que ce soit du côté des historiens ruralistes ou des historiens spécialistes de l'alimentation, la notion de cuisine rurale est essentiellement posée pour le 19e, 20e. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction avec les rendez-vous de l'histoire à Blois, parce que derrière, il y a le dossier des produits de terroir, de ces spécialités régionales souvent inventées, hein, 19e, 20e, et on ne pose pas cette question parce que on a un peu l'impression que la notion de cuisine paysanne a été annexée au 19e, 20e, et qu'on ne peut pas la poser pour des siècles un peu plus anciens. Lorsqu'on évoque une cuisine, en principe, c'est qu'on est au moment des ripailles, des festins, des banquets. Mais l'analyse culturelle est de dire, attention, c'est un contre-modèle alimentaire, c'est pas la normalité. Donc si je vais au bout du raisonnement, la cuisine n'existerait que dans ce contre-modèle alimentaire, mais pas pour le reste de la quotidienneté. Et cette approche, elle se voit bien dans l'histoire de la France rurale, là encore, hein, la notion de cuisine paysanne n'existe pas. Et lorsque Emmanuel Leroy Ladurie analyse dans sa lecture ethnographique des souvenirs littéraires de Nicolas Rétif de la Bretonne, hein, qui termine son chapitre, la cuisine de la mère Nicolas, il interprète la confection de tartes aux épinards et de tartes aux poireaux comme la preuve d'une acculturation et d'une influence urbaine. C'est-à-dire qu'il note bien l'existence d'une cuisine, mais elle ne peut pas être paysanne. Elle ne peut être que une conséquence d'une influence urbaine, parce qu'il y a cette idée qui reste à démontrer que la cuisine serait un fait urbain et absolument pas un fait paysan. Et pourtant, on a des éléments qui montrent bien qu'il existe une cuisine paysanne et qu'on peut poser la question d'une cuisine paysanne. Mais si je pose une cuisine paysanne, vous voyez que je m'éloigne de la dérive misérabiliste et je suis obligé de comprendre autrement la culture paysanne. Alors, malheureusement, texte totalement isolé, mais qui fait vraiment plaisir quand on le trouve, de Nicolas de Bonnefond, Les délices de la campagne. Donc c'est un livre de cuisine qui a été écrit en 1654, au moment où s'impose vraiment la nouvelle cuisine française, celle qui sera réputée, hein, qui a été créée au milieu du XVIIe. Et donc là, il évoque les raves, viande grossière. Alors viande, il faut comprendre aliment, hein, bien évidemment, donc ou denrées, hein, denrées alimentaires. C'est un aliment si grossier que j'ai regret d'y employer le temps et le papier. Il écrit pour les élites, normalement. Néanmoins, afin que je m'acquitte de ma promesse et que je n'omette rien de ce qui a pu venir à ma connaissance, je dirais que les villageois limousins, donc il faut comprendre les paysans du Limousin, en font les meilleurs plats de leur banquet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous décrire plusieurs recettes, quatre recettes quand même. Quand ils la font bouillir dans le pot, ils l'appellent cartella. Quand ils ne la font cuire qu'avec l'eau et le sel, c'est don rondeo. S'ils la rôtissent sous la braise, ils la nomment lombolé. Et lorsqu'ils la fricassent dans la poêle avec le beurre ou l'huile, c'est la râpe fricassée. C'est quand même intéressant de voir que vous avez quatre recettes de proposer avec des noms précis. Alors, à partir du moment où un nom correspond à une recette, c'est quoi si ce n'est la preuve de l'existence d'une cuisine? Et en plus, vous avez ici la preuve d'un goût paysan, puisqu'il y a une préférence pour les raves qui sont fricassées dans le beurre ou l'huile. Alors, je vous dis pas, évidemment, que les paysans, tous les jours, mangent ces raves fricassées, mais c'est bien la preuve que, dans nos archives et dans nos sources, on peut trouver des indices pour parler d'une cuisine paysanne. Autre exemple, qui est cité cette fois par Madeleine Ferrière dans Nourriture canaille. Donc là, nous sommes au 18e, et nous sommes dans les Cévennes, et voyez, quatre façons différentes de préparer les Cévennes, avec des noms, hein, qui renvoient à des préparations précises. Donc là, on va dans le sens de l'existence d'une cuisine paysanne. De même, Troisième exemple, dans Les erreurs et propos vulgaires de Laurent Joubert, 16e, recette évoquant le boudin noir. Et là, on nous évoque les aromates que l'on peut mettre dans ce boudin noir. Et on voit que certains peuvent ajouter du fenouil, des autres, donc de la marjolaine, persil, hysope, etc. Mais jamais la sarriette. On a bien des recettes qui nous sont proposées. Et les erreurs et propos vulgaires sont une belle source pour travailler sur l'alimentation paysanne. Par le regard des élites qui condamnent un certain nombre de pratiques, évidemment, mais on a ici des témoignages précieux sur un certain nombre de recettes ou de cuisines qui renvoient à une culture alimentaire paysanne. Alors, on a évoqué en ouverture les inventaires après décès. Évidemment, donc là, dans les inventaires après décès, on peut trouver un certain nombre de renseignements. Quand j'étais à Rennes 2, j'avais commencé à travailler sur des inventaires après décès aux Bretons. Et dans ces inventaires après décès, c'est donc de paysans aux Bretons, on trouve quoi? On trouve, donc ce sont les noms dans l'inventaire, des poêles à crêpes, donc il y a bien une cuisine, des pots à gigouden, gigouden c'est la bouillie, et autres ustensiles à lait ribaud. Donc là, avec nos inventaires après décès, on voit que le greffier ou la personne qui indique le nom des ustensiles renvoie bien à une cuisine, puisqu'on a des ustensiles qui sont précisément destinés à un usage. De même, la question du goût est à prendre en compte dans une histoire de l'alimentation pour le monde paysan. Et je terminerai donc cette sous-partie par l'exemple de la pomme de terre, qui est un dossier qui a été travaillé, et dans le sillage de l'histoire des mentalités, on nous explique très souvent que la pomme de terre n'arrive pas à accéder aux tables parce qu'il y aurait des peurs, il y aurait des rumeurs lèpre, etc. Et on nous explique que parce que ça pousse dans le sol, donc il y a tout un imaginaire négatif, etc. Imaginaire qui ne joue pas quand il y a des raves, ceci dit. Mais pour les pommes de terre, ça poserait problème. Moi, il me semble qu'en réalité, le problème de la pomme de terre, c'est avant tout une question de goût de la paysannerie. Et Turgot le dit réellement, Turgot le dit. Lorsqu'il évoque le cas de la pomme de terre dans le Limousin, il explique que la paysannerie reste attachée aux châtaignes parce qu'elle n'aime pas la pomme de terre. Et je crois que n'aime pas, il faut bien comprendre, elle n'aime pas le goût de la pomme de terre. Et que, à mon sens, et pourtant j'aime l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle, là je pense qu'on a été trop loin dans l'interprétation culturelle et qu'on a oublié le goût, et que les paysans habitués aux choux, aux navets, aux châtaignes, le goût de la pomme de terre, c'est fade, effectivement. Si aujourd'hui la pomme de terre est largement consommée dans le monde, c'est qu'elle est fade et qu'elle peut s'adapter à quasiment toutes les cultures. Alors que quand vous consommez des navets ou des choux, là, vous avez un goût qui est bien plus marqué. Donc l'histoire de l'alimentation, c'est aussi une histoire très concrète, où il faut essayer de revenir vers les goûts de l'époque. Donc, en conclusion, une histoire de l'alimentation paysanne me semble possible. Pour moi, elle reste à faire. Une vraie histoire de l'alimentation, de la paysannerie qui prendrait en compte une culture alimentaire et qui montrerait en gros ce qui existe entre la faim et l'abondance, c'est-à-dire c'est là vraiment où on aurait la culture alimentaire de cette paysannerie, reste à mener. Et à mon sens, cette histoire ne reposerait pas sur l'invention de sources, c'est-à-dire que les sources, on les connaît, elles existent. Donc, les inventaires après décès, et là, on a de très très belles études qu'on pourrait récupérer en seconde main pour avoir un certain nombre d'informations. Les baux, évidemment, puisqu'il y a une production alimentaire, mais qu'il faut réintégrer dans une culture alimentaire. Les affaires de justice, là, la série B, elle est exceptionnelle parce qu'on a des détails qu'on a nulle part ailleurs. Pour moi, c'est vraiment la série la plus intéressante pour faire de l'histoire culturelle. Les relations de voyage avec, évidemment, le filtre du regard qui est le regard un peu méprisant sur l'archaïsme du monde rural. Les grandes enquêtes qui ont été lancées par la monarchie administrative et puis après par les médecins éclairés à la fin de l'Ancien Régime. Les traités de cuisine, là je vous ai donné des exemples où à partir des traités de cuisine qui pourtant sont destinés aux élites, on peut trouver quelques informations, pas beaucoup malheureusement, mais quelques informations sur la cuisine paysanne. Vous avez les traités d'économie rurale, à ne pas négliger, puisque l'alimentation est très présente et on a des recettes. Les œuvres littéraires, les contes et les chansons, où là, on peut trouver matière également. Le petit chaperon rouge, il y a quand même cette galette et le beurre. C'est pas innocent que ce soit la galette et le beurre. Et c'est pas la galette Saint-Michel, évidemment. Les dictionnaires français, langue régionale, à travailler, parce que là, on a pas mal d'indices pour retrouver des expressions locales renvoyant à une culture alimentaire. Les erreurs populaires. Là aussi. Donc, il y a un vaste corpus qui existe, mais on n'a pas de belles séries. En réalité, il faut aller rechercher des informations dans différents dépôts d'archives et dans différentes sources imprimées pour pouvoir y arriver. L'iconographie, évidemment. Alors là, avec le problème d'une iconographie qui est destinée aux élites. Donc, là. L'enjeu n'est pas dans ces sources hein, qui sont repérées, qui existent, mais il me semble que l'enjeu serait déjà de travailler l'alimentation paysanne pour elle-même, pour comprendre vraiment cette culture alimentaire, comme un objet historique à part entière, qui ne serait pas un objet historique de production, mais vraiment de compréhension de cette culture alimentaire. Et en posant, en enrichissant les problématiques de l'histoire rurale, de cette problématique qui est en cours hein, depuis quelques années sur l'ouverture du monde rural, ça c'est important. On évoquait tout à l'heure la thèse d'Anne Radeff, où elle montre bien dans les Alpes hein, des pasteurs qui sont en train de faire griller du café dans un chaudron à fromage. C'est quand même un très bel exemple d'ouverture culinaire du village. Et en posant la question du goût et de la nécessité, qui, à mon sens, est la principale problématique de l'histoire de l'alimentation, le goût et la nécessité. Par exemple, pourquoi les paysans bretons ne mangent pas de champignons, alors qu'il y a des champignons en Bretagne, alors que les paysans landais vont manger des champignons ? On est bien sur du goût et de la nécessité. Autre élément qui me semble important, pour cette histoire, il faudrait prendre en compte les travaux des archéologues. Travaux des archéologues fouillant des sites ruraux. Alors je pense aux travaux des archéozoologues, hein, par exemple comme Benoît Clavel, où on a quelques informations pour les sites ruraux. Je pense aux travaux de Fabienne Ravoir sur le mobilier culinaire de la cuisine rurale 16e, 17e. Des travaux de Daniel Alexandre Bidon qui vont exactement dans ce sens-là et qui permettent d'enrichir totalement notre compréhension de cette culture alimentaire. Par exemple, Daniel Alexandre Bidon a montré d'une manière remarquable l'intérêt d'utiliser des pots de terre non vernissés à l'intérieur. Comment ça jouait sur le goût dans un très beau livre qui s'appelle Une archéologie du goût 2005. Et donc c'est dans cette direction-là, me semble-t-il, qu'on pourrait faire une histoire de l'alimentation du monde rural. Et évidemment, bah, il faudrait arriver à trouver un point de contact entre les historiens de l'alimentation qui sont plutôt histoire culturelle et les historiens du monde rural qui sont plutôt histoire économique et sociale. Et donc de bien travailler ces trois emboîtements qui ont vraiment toute raison de dialoguer ensemble pour pouvoir vraiment comprendre cette culture d'alimentation. Je vous remercie de votre attention.